Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. En cette semaine où l'Europe s'interroge sur la réponse à adopter face à l'agressivité d'un Donald Trump sur toutes sortes de sujets, allant des droits de douane à la défense, à l'Ukraine, en passant par l'intelligence artificielle. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Breton. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Breton. Alors, je rappelle que vous êtes ancien commissaire européen au marché intérieur, chargé de la politique industrielle, des services du numérique, de la défense et de l'espace, des sujets donc d'actualité. Ancien ministre de l'économie de 2005 à 2007 et capitaine d'industrie. Après 3 ans de guerre en Ukraine, Donald Trump a parlé pendant 1 heure au téléphone avec Vladimir Poutine pour démarrer, dit-il, des négociations de paix sans les Ukrainiens et sans l'Union européenne.
Pendant sa campagne, il nous disait qu'il allait régler le problème en 24 heures. Bon, ce n'est pas le cas, évidemment, mais nous y voilà. Nous n'avons, je crois, rien à attendre de tout ça. Il faut que nous, Européens, nous prenions notre destin en main. Il faut nous faire entendre. Aujourd'hui, on est beaucoup à trouver que l'Europe ne parle pas assez. Il faut nous faire entendre dans ce moment-là. Alors bien sûr, c'est facile à dire et c'est plus difficile à faire. On n'est pas naïf. Mais il n'en demeure pas moins que cette guerre, elle se déroule sur le continent européen. La cause, c'est vraiment l'agression incroyable, inimaginable, de Vladimir Poutine sur un pays souverain.
Là, les lignes rouges américaines sont très défavorables à l'Ukraine, dans ce qu'on a entendu.
Un pays souverain qui s'est battu de façon admirable. On l'a soutenu, évidemment, autant qu'on a pu le faire, et c'était parfaitement légitime. Voilà, l'Europe doit dire que ça doit se passer, évidemment, avec elle et avec Volodymyr Zelensky. C'est absolument indispensable, et j'espère que l'Europe va le dire et le faire savoir, et se donner les moyens aussi.
D'ailleurs, la sécurité, c'est le mot d'ordre d'un autre Donald Tusk, le premier ministre polonais, alors que la Pologne détient la présidence tournante pour 6 mois du Conseil de l'Union européenne. Les Polonais se rapprochent des 5% de leur PIB dédié à la défense, record en Europe, même s'ils n'achètent pas que des armes européennes, loin de là, même aucune. Quelle impulsion vous attendez en matière de défense?
Je l'ai dit et redit. Vous avez fait référence il y a quelques instants, lorsque j'étais moi-même en charge, au sein du précédent collège, de la défense et des industries de défense. L'Europe doit prendre son destin en main, dans toutes les dimensions, y compris en matière de défense. On le sait, on a mis en place tous les programmes pour cela. On a mis en place toutes les infrastructures pour ça. Il faut maintenant monter en gamme très rapidement et de façon mutualisée ensemble. Alors, Donald Tusk, le président en exercice de l'Union aujourd'hui, le dit, on ne peut plus intermédier notre défense. Oui, c'est vrai. Mais encore faut-il évidemment que toutes ces augmentations nous permettent d'augmenter notre base industrielle. Si, comme vous l'avez rappelé, c'est pour acheter américains et le reste coréens, ça servira à rien. Donc il faut vraiment qu'en parallèle, on accélère massivement. Et puis je voudrais dire un point, qui est un point qui est toujours délicat, mais dont on ne peut plus aujourd'hui s'extraire dans les discussions en matière d'architecture de sécurité. Nous avons 26 pays en Europe qui dépendent, il faut le dire, des États-Unis
et de l'OTAN.
Des États-Unis à travers l'OTAN, mais des États-Unis pour l'élément ultime de la dissuasion nucléaire. Tant que ce problème-là n'aura pas été adressé de façon évidemment à la fois confidentielle, mais je dirais de façon profonde et sérieuse entre les 27, eh bien, on aura toujours cette dépendance.
Parce que la France est la seule puissance nucléaire de l'UE.
On aura toujours cette dépendance qui, dans une logique transactionnelle, or nous sommes aujourd'hui avec Donald Trump dans une logique transactionnelle, finit toujours par avoir un prix. Donc oui, Donald Tusk a raison. Mais alors qu'il aille maintenant voir Emmanuel Macron et qu'ils discutent tous les deux dans la confidentialité que requiert ce type de discussion. de ce point précis. C'est un sujet qui est absolument essentiel. Le président de la République l'a rappelé.
Est-ce la qu'on dissuasion, peut mettre la dissuasion la nucléaire au service de l'Europe ?
La dissuasion nucléaire française demeure évidemment à la main de la France exclusive, mais elle a aussi une composante européenne. Il faut maintenant que la France parle de cette composante avec l'ensemble des 27, faute de quoi ? Eh bien, faute de quoi, on sera toujours dans cette logique transactionnelle qui sera défavorable à l'Europe.
Alors, autre sujet de discorde transatlantique, Thierry Breton. Donald Trump a décidé de taxer les Européens, une nouvelle guerre commerciale. Quelles conséquences économiques concrètes pour l'UE ?
D'abord, si vous le permettez, quelles conséquences économiques concrètes pour les États-Unis ? Je rappelle à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que quand on met les droits de douane, à la fin des fins, c'est le consommateur, à la fin, du bout de la chaîne, du pays qui impose ses droits de douane, qui paye. Aujourd'hui, qui va payer les droits de douane que le président Trump brandit urbi et orbi ? C'est le consommateur américain. Donc ça, c'est vraiment le premier point à rappeler. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on soit sur ces questions extrêmement calme et professionnel. Si effectivement il y a des discussions qui sont des discussions commerciales, eh bien on est prêt à les avoir.
Mais la dernière présidence Trump, pour rappel, les Européens avaient ciblé leurs représailles sur des produits fabriqués dans des États républicains, le Bourbon, les Harley-Davidson, etc. Est-ce que ça avait servi, souvenez-vous,
oui, Thierry
Breton, à quelque chose de
positif ? Ça avait servi parce qu'on était précisément dans une période préélectorale et que nous avions ciblé de façon opportune, je crois, puisque on fait de la politique après. C'est pas de l'économie, je viens de vous démontrer que l'économie, ça n'a pas de sens. Donc, il utilise ses armes pour faire de la politique, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose d'autre. Et donc, on avait ciblé le Kentucky pour le Bourbon, ça avait évidemment ému les électeurs du Kentucky. Il avait ciblé le Wisconsin pour les Harley-Davidson, ça les avait émus. Et finalement, on avait réussi à trouver un accord pour, mettre de côté ces augmentations jusqu'au mois de mars 2025. Donc, nous y voilà. Donc il faut répondre, là encore, de façon plus politique, donc en ciblant effectivement des domaines ou des pays ou des géographies ou des industries qui ont un impact politique plutôt qu'économique. Donc voilà, on a un arsenal.
Et vous sentez la commission Ursula von der Leyen 2 capable de le faire ?
En tout cas, ce que je sais, c'est que les équipes sont parfaitement armées pour cela. Maintenant, évidemment, il faut exercer ce rapport de force politique parce qu'on en est là. Je voudrais rajouter un point. Il s'agit de rester uniquement dans les discussions commerciales. Car si jamais l'administration Trump fait ça pour obtenir autre chose, on a vu les velléités sur le Groenland, on a vu les velléités de détricoter, excusez du peu, des lois qui ont été votées par notre démocratie, je pense en particulier aux lois numériques, le DSA ou les AI Act, qui ne plaisent peut-être pas à l'administration Trump.
Et en particulier c'est nos lois, à Elon Musk.
C'est nos lois européennes. Elles ont été votées à plus de 90% par le Parlement européen, notre démocratie, à 100% par les États membres.
Donc ça ne peut pas servir de monnaie d'échange,
vous dites. Donc on ne peut pas, encore une fois, être là et dire, écoutez, pour éviter les droits de douane, on va détricoter ce qui fait partie de notre intégrité. Nous sommes une très grande démocratie. Nous, l'Union européenne, 450 millions de concitoyens européens, une fois et demie la démocratie américaine. Il faut s'en souvenir et il faut le rappeler.
Vous étiez commissaire en charge de l'industrie aujourd'hui. C'est Stéphane Séjourné, vice-président français de la Commission, qui a récupéré cette compétence assortie de l'adjectif propre, l'industrie propre. Est-ce que ça veut dire aussi que ces nouvelles institutions beaucoup plus à droite, un Parlement beaucoup plus à droite, sont en train de vouloir détricoter les règles écologiques du pacte vert?
Il y a le modèle aujourd'hui qu'incarne finalement Donald Trump et Elon Musk, qui est un modèle où on déricule à tout vin, à tout crin. On voit que du reste, de respect qu'on a aussi pour celles et ceux qui ont servi l'État fédéral américain. Quand on voit qu'on met des dizaines de milliers de personnes à la porte du jour au lendemain, c'est ça le modèle qu'on veut en Europe ? C'est ça le modèle que tous les idiots utiles qui vont se précipiter aujourd'hui pour dire « mais c'est formidable, regardez ce qui s'est passé à Madrid cette semaine, la semaine dernière ». Ils sont tous là, l'extrême droite, pour dire « mais c'est formidable, voilà donc notre nouveau Dieu ». Ah bon ? C'est ça le modèle qu'on veut en Europe ? C'est ça le modèle qu'on veut en France ? Eh bien, disons-le. Et les Français choisiront, en temps utile. Eh bien, moi, je crois que notre modèle à nous, il est différent. Notre modèle, il est fondé sur l'état de droit. Notre modèle, il est fondé sur le respect des personnes. Notre modèle, il est fondé sur la démocratie. Notre modèle, il est fondé aussi sur le fait qu'on a pris un engagement. C'est d'être dans les accords de Paris et de travailler à décarboner, effectivement, là où nous sommes, une partie importante de notre industrie, jusqu'en 2050. Donc il faut garder cet objectif. Maintenant, si jamais il faut effectivement améliorer, je dirais, cette transition, les éléments de cette transition, bien sûr, il faut le faire, mais il faut toujours avoir l'objectif en tête, 2050. Continent décarboné, c'est pas parce que nous avons tous les 4 ans, un certain nombre de personnes qui disent des choses différentes, qu'il faut nous-mêmes ne pas avoir notre propre ligne directrice. Ça, c'est non négociable.
Il y a un modèle qui se singularise en Europe, c'est celui de l'Espagne, du socialiste Pedro Sanchez, premier pays d'arrivée des migrants. L'Espagne vient aussi de passer une loi permettant de régulariser 900 000 personnes en 3 ans. Écoutons tout de suite la ministre espagnole de l'inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, Elma Saïs, au micro d'Isabelle Romero.
On sait que les 16% des populations actives sont de travailleurs étrangers. Et on trouve un demi-million de travailleurs indépendants dans le régime de la sécurité sociale spéciale, on appelle spéciale, qui payent à la sécurité sociale, ils contribuent, ils sont affiliés à notre marché de travail. Nous sommes maintenant une importante force économique de toute l'Europe, et on sait que l'affiliation étrangère est une clé fondamentale pour notre développement économique. Tout le monde gagne avec une politique migratoire comme le gouvernement de l'Espagne. Gagne la société, et gagne les personnes migrantes et aussi gagne les entreprises.
Thierry Breton, l'Espagne qui dit que l'immigration n'est pas un danger et ne doit pas être traitée comme telle, mais une chance et un enrichissement même pour le système de sécurité sociale.
Vous prenez l'Espagne. Moi, je vais vous citer l'Italie. Madame Meloni n'a pas exactement les mêmes thèses politiques que Monsieur Pedro Sanchez. Ça n'a échappé à personne. Et pourtant, Madame Meloni...
C'est la droite radicale.
Madame Meloni a régularisé des centaines de milliers d'illégaux dans son pays. Et parce que, précisément, il y en a besoin sur l'économie. Donc, on le sait qu'il y a évidemment un lien, y compris aux États-Unis, par parenthèse. L'une des causes de la croissance américaine, c'est évidemment sa compétitivité, mais c'est aussi beaucoup son immigration. C'était quand même 3 millions de migrants qui franchissaient la frontière de façon illégale aux États-Unis, contre chez nous en Europe, 300 000, juste pour donner les ordres de grandeur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas surveiller effectivement tout ça, le contrôler, vérifier aussi que l'intégration se passe correctement. C'est un problème majeur que nous avons adressé les pays, tous les 27 en Europe. Mais si vous voulez que je vous dise qu'il y a un lien entre effectivement immigration et accroissement de la richesse nationale, bien entendu, tous les économistes vous le diront. Maintenant, le sujet, c'est évidemment l'intégration, et c'est le sujet sur lequel il faut travailler ensemble.
Sur le thème de la lutte contre l'immigration et les normes environnementales, l'extrême droite a progressé un peu partout en Europe, au Parlement européen, en Hongrie, en Italie, en Belgique. Elle est au pouvoir aux Pays-Bas, elle gouverne avec la droite. En Autriche, elle a échoué à la porte du pouvoir. Donald Trump valide leur agenda et Elon Musk leur donne les moyens numériques de se promouvoir, comme en Allemagne, où il finalement recommande de voter AfD dans les prochaines élections allemandes. Faut-il s'en inquiéter ?
Je voudrais qu'on arrête maintenant avec Elon Musk. Elon Musk a montré qui il était, il a montré son visage. Il faut arrêter. Je ne suis pas sûr du reste qu'il sera en capacité, on verra bien. C'est pas à moi d'en juger. Mais quand on voit la violence de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on verra jusqu'où ça ira. Et je mets en garde, si vous le permettez, tous ceux qui nous regardent, voir si c'est vraiment le modèle. Si c'est le modèle... puisqu'on voit que certains, aujourd'hui, ont l'air de trouver que c'est formidable, c'est ce qu'il faut faire. Si c'est le modèle que veut promouvoir une partie, aujourd'hui, des forces politiques européennes, en particulier l'extrême droite, eh bien qu'ils le disent haut et fort. Et les électeurs jugeront de ce qui est bon pour nous en Europe ou de ce qui l'est moins.
Thierry Breton, les 10 et 11 février, le sommet de l'intelligence artificielle se tenait à Paris. On a constaté une approche très différente entre l'administration Trump, opposée à toute régulation, et les Européens qui cherchent une IA encadrée et inclusive. Reportage d'Anna Pereira.
Au sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, la délégation américaine prône une approche non interventionniste. Son vice-président J.D. Vance a critiqué les efforts européens qui visent à limiter les risques.
Nous avons besoin de régimes réglementaires internationaux qui favorisent la création de la technologie de l'IA au lieu de l'étouffer. Il faut que nos amis européens en particulier envisagent cette nouvelle frontière avec optimisme plutôt qu'avec inquiétude.
Contrairement à la Chine, les États-Unis étaient absents de la déclaration commune du sommet, signée par 60 nations. Le texte s'engage à promouvoir l'accessibilité de l'IA afin de réduire la fracture numérique et à veiller à ce que l'IA soit ouverte, inclusive, transparente, éthique, sûre et digne de confiance. Le président français Emmanuel Macron défend une réglementation à l'échelle mondiale. Il souhaite positionner l'Europe comme une troisième voie dans la course à l'IA.
Cette troisième voie qui consiste à dire, au fond, nous on ne veut aucune vassalisation, mais on veut aussi qu'il y ait un accès juste et ouvert de ces innovations à toute la planète.
Après l'avoir co-organisé avec la France à Paris, l'Inde sera le prochain pays à accueillir le sommet international sur l'intelligence artificielle.
Thierry Breton, est-ce que l'avance américaine en matière d'intelligence artificielle leur permet finalement de pousser cette vision dérégulatrice à travers la planète qui va primer ?
Absolument pas. Les États-Unis, c'est une démocratie de 330 millions d'habitants sur une planète qui en compte bientôt 9 milliards. Voilà. Aujourd'hui, la planète a parlé. Et notamment les deux plus grandes démocraties, que sont l'Inde et l'Union européenne. Nous avons décidé ensemble, avec aussi 59 autres pays, y compris, pardon, la Chine, qui n'est pas vraiment une démocratie. Les États-Unis suivront, bien entendu. S'ils veulent se mettre en marge du monde, ils se mettront en marge du monde. Mais voyez-vous, nous avons décidé, quand je dis nous, c'est notre démocratie européenne, d'avoir une loi qui s'appelle l'AI Act, votée à près de 90% par les députés européens, à 100% par tous les États membres, dont la France. Donc aujourd'hui, il faut être fier de ce que nous avons fait. On a mis 5 ans pour discuter de cela. Et alors quoi ? Parce que ça ne plairait pas à un pays, il nous demanderait de détricoter ce que notre démocratie a voulu pour protéger nos enfants, pour protéger nos auteurs-compositeurs. Mais ça n'existera pas. Et vous savez pourquoi ça n'existera pas ? Parce que toutes les entreprises qui vendent des services d'intelligence artificielle, il y en a des américaines, il y en a des singapouriennes, il y en a des européennes, il y en a des françaises, il y en a des chinoises aussi. Si elles veulent bénéficier du marché intérieur européen, elles devront respecter nos normes. Donc, il y a les effets de manche, il y a ce qu'on dit, mais nous soyons conscients et soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, et il est hors de question que parce que ça ne plairait pas à la Chine, que ça ne plairait pas à la Russie, ou parce que ça ne plairait pas aux États-Unis, on commence à détricoter nos lois.
Emmanuel Macron a parlé de mobiliser 109 milliards. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a avancé 200 milliards d'euros d'investissement dans l'IA, l'Union européenne s'engageant sur un montant de 50 milliards et avec un effet public-privé. Mais est-ce que ce sont des ordres de grandeur suffisants ?
L'intelligence artificielle, c'est très important, mais ce n'est pas non plus une révolution scientifique majeure. C'est tout simplement l'aboutissement d'une révolution, celle du numérique, qui se fait en 3 phases, les supercalculateurs et les calculateurs d'abord, le monde de l'Internet ensuite, et maintenant précisément l'exploitation des données. On est dans cette 3e phase, on a tout ce qu'il faut en Europe. On a le plus grand réservoir de données industrielles et professionnelles au monde. On a les puissances de calcul.
On a peu de financement.
Eh bien maintenant, il faut du financement, vous avez raison, parce qu'il faut des data centers pour pouvoir les stocker, il faut des supercalculateurs pour entraîner les modèles. Oui, il y aura besoin d'investissement, mais on le trouvera, encore faut-il, et je voudrais terminer sur ce point, que nous ayons conscience que l'une de nos faiblesses en Europe, c'est que précisément on a encore un marché des capitaux qui est trop fragmenté, encore 27 marchés. Il faut donc pousser, comme nous incite à le faire Enrico Letta dans son rapport, l'union des capitaux en Europe pour pouvoir accompagner le développement de nos entreprises, de nos start-up. C'est, me semble-t-il, le travail prioritaire sur lequel la nouvelle commission von der Leyen doit désormais s'engager de façon déterminée et résolue.
Merci encore Thierry Breton, ancien commissaire européen, de cet entretien sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos antennes où l'actualité continue.